France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Septième.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine vient de s'ouvrir à Londres un grand procès contre le Daily Mail, le plus puissant tabloïd britannique avec le Sun. À la barre, le prince Harry, accompagné par plusieurs personnalités dont Elton John. Le membre de la famille royale accuse le quotidien de pratiques illégales concernant la recherche d'informations sur sa vie privée, d'écoute téléphonique, à l'emploi de détectives bien trop curieux. Pendant 9 semaines, ce procès médiatique sera celui des tabloïds et de leurs pratiques contestables, à un moment où l'opinion anglaise semble basculer du côté de la protection de l'intimité des célébrités. Une occasion pour nous, la Fabrique, de s'intéresser à l'histoire et l'évolution de cette presse populaire et sensationnelle que l'on dit à scandale, et également de traverser la Manche pour explorer comment elle s'opère chez nous. Quel est l'héritage des tabloïds dans notre paysage et quelles sont les spécificités française du genre depuis la création d'Ici Paris au lendemain de la Seconde Guerre. Comment la presse people doit-elle se réinventer depuis la montée en puissance des réseaux sociaux qui permettent aux stars de reprendre la main sur le récit de leur vie privée? Comment se recompose le secteur à l'heure des influenceurs et de la nouvelle concurrence venue du web? Et que reste-t-il de la peopleisation de la vie politique française et de leurs intérêts communs? Enfin, quelle recette demeure dans une presse qui génère chez nous un sentiment mêlé d'attraction et de répulsion. Et pour en parler, trois invités, dont deux en studio, Jamil Jean-Marc Daclia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la peopleisation politique, un sujet que vous analysez depuis de nombreuses années. À vos côtés, des acteurs du secteur. Avec vous, Benjamin Dargent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire Closer, un titre arrivé en France en 2005 et qui a connu son heure de gloire avec le scoop du scooter présidentiel. Hein, tout le monde a en mémoire les photos de François Hollande et de celle qui deviendra officiellement un peu plus tard sa compagne, Julie Gayet. À distance, mais bien présente, Maëlle Brun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de l'hebdomadaire Public, journal créé en 2003, un titre passé par le groupe Lagardère, puis CMI de Daniel Kretinsky, et aujourd'hui aux mains d'Erose Média. Merci d'être présents, notamment vous deux, pour nous parler de votre métier et répondre aux critiques qui vous sont si souvent adressées. Cette semaine, pas de chronique de nos amis de chez Courrier International, mais comme chaque mois, le rendez-vous avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Elle interrogera la productrice Alexandra Delbo en prolongeant les questionnements de nos auditeurs et auditrices sur l'information scientifique. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 21 de la Fabrique de l'Information. Merci de nous suivre en direct ou en podcast sur l'application Radio France ou sur la chaîne YouTube de France Culture où nous sommes diffusés en images et sans paparazzi. C'est parti.
Le procès qui oppose le prince Harry et l'éditeur du Daily Mail s'est ouvert ce lundi à Londres. Le fils cadet du roi Charles III attaque le tabloïd Daily Mail qui l'accuse d'avoir obtenu des informations sur sa vie privée de façon illégale.
Mais qui dit press people, dit procès.
Qu'on nous reproche simplement de faire notre métier de journaliste, c'est-à-dire de donner des informations en travaillant et en bousculant un petit peu les règles. Voilà, au bout du compte, à 95%, nous estimons que le préjudice dont se plaignent les célébrités est nul ou proche de nul.
Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzi. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit.
Ce jour-là, on enterre Charles Aznavour. Michèle Marchand, dite Mimi, la reine des paparazzi, connaît tout le monde. La voici avec Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet l'an dernier. Le couple présidentiel lui doit beaucoup. Elle a façonné leur image au fil des unes de la presse people.
Les stars, en fait, elles font plus vendre?
Disons que la relation aux stars a complètement évolué. Les personnalités ont leur propre magazine, qui parle d'elles tous les jours, leur compte Instagram.
Et leurs magazines ont aussi leur compte Instagram, évidemment. Jamil Jean-Marc Daclia, on commence peut-être avec vous pour préciser les termes. Qu'est-ce qu'on appelle un tabloïd? Est-ce qu'on en a en France? Déjà, c'est quoi un tabloïd?
Alors un tabloïd, c'est essentiellement un quotidien en Grande-Bretagne. Et c'est surtout le format qui définit le tabloïd. C'est un demi-format par rapport au format classique. Et c'est devenu synonyme de presse populaire. Donc essentiellement quotidienne, mais parfois il y a des suppléments du week-end ou des magazines du week-end qui sont aussi des tabloïds. Voilà. Et ce qui les caractérise outre Manche, mais aussi outre-Atlantique dans les supermarchés, C'est la trilogie, les trois S, sexe, scandale et sport.
Bien sûr, du sang, du sexe et du sport. Alors, il y a peut-être scandaleux aussi, mais tout cela est très scandaleux. Quand vous dites le format, c'est un plus petit format, c'est-à-dire que c'est plus compressé.
Oui, c'est compact. Ça vient d'un mot français, d'ailleurs, à l'origine, tablette. Et c'est le comprimé de médicaments qu'on avale. Donc, c'est une information très condensée et percutante.
Alors, intéressant, puisque ça vient d'un terme français. Est-ce qu'en France, pour autant, est-ce qu'on a des tabloïds
Et non. Nous n'avons pas vraiment de presse quotidienne populaire en France. On en a eu. Il y avait France Soir. Aujourd'hui en France, mais c'est encore très, très différent de ce qu'il y a en Grande-Bretagne.
Benjamin Dargent, oui. Est-ce qu'on a des tabloïds en France? Non.
Non.
Pourquoi ?
Je pense que c'est culturel, aussi parce que en France, la presse people s'est incarnée par des magazines à l'après-guerre, vous l'avez rappelé dans votre introduction, et c'est quelque chose qui a perduré. Et les quotidiens s'intéressaient assez peu à la chose people, si ce n'est à travers l'aspect culturel, une nouvelle chanteuse émergente, un nouvel acteur à succès, mais ils s'arrêtaient là. Il y a une forme de je ne sais pas si c'est du respect, mais en tout cas, ça n'a pas pris en France au-delà des magazines.
Alors, on parle justement de presse people, c'est comme ça que le terme s'est vulgarisé. Vos deux titres, que ce soit, je le rappelle, vous, Benjamin Dargent, avec ce titre Closer, et Maël Brun, qu'on va entendre dans un instant, sont nés à peu près à la même période, au début des années 2000. C'est assez intéressant, parce que c'est le même moment où les réseaux sociaux commencent à arriver, finalement. Les deux propositions arrivent autour de 2005. Maël Brun, aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire public. Principalement, cette presse people, elle vise un public féminin.
Oui, elle vise un public féminin. On le voit d'ailleurs au travers de nos rubriques féminines, puisque tous les magazines people en France ont des rubriques mode, maquillage, beauté, etc. Notre public est clairement féminin. Il est plutôt vieillissant, si on peut dire. Enfin, j'ai l'impression que les lectrices ont vieilli avec les magazines qu'elles suivaient peut-être adolescentes et qu'elles continuent pour certaines d'acheter aujourd'hui à la trentaine, à la quarantaine. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, oui, enfin, je pense qu'on va y venir, mais ça évite évidemment compliqué notre travail, où ça nous a poussé en tout cas à le faire différemment et à chercher des angles, à chercher à apporter plus que la simple nouvelle d'une grossesse ou d'un mariage ou autre quoi.
Oui, évidemment, parce que cette nouvelle-là peut être directement donnée sur le compte Instagram de ces personnalités. Il faut donc arriver à se distinguer. On verra comment vous y parvenez. Mais peut-être pour finir de définir à la fois l'objet et sa cible, Jamil Jean-Marc d'Aquila, on voit bien que là, c'est une presse féminine en France, alors que les tabloïds, c'est une presse plus populaire. D'ailleurs, elle n'a pas forcément de spécificité de genre.
Alors, elle est un peu plus féminine quand même,
ouais.
Mais oui, c'est essentiellement une presse qui se tourne vers les classes populaires et les classes moyennes, selon les titres. Et en fait, il y a une ligne de partage avec la presse dite sérieuse qui, elle, va s'adresser aux classes les plus aisées. Et la ligne de partage en Grande-Bretagne ne passe pas au même endroit qu'en France. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, il y a des quotidiens populaires et des quotidiens dits sérieux, les broadsheets. Et en France, la presse quotidienne est essentiellement sérieuse, enfin en tout cas autoproclamée comme sérieuse.
Alors cette presse tabloïde aussi, elle est très puissante en termes de tirage. On ne peut pas non plus comparer ces quotidiens qui sont d'ailleurs pour certains peut-être une source première d'information ou l'ont été
absolument
pendant très longtemps, avec ce qui se passe chez nous qui sont plutôt une presse hebdomadaire, un peu plus magazine. Vous l'avez chacun expliqué. Il y a tout de même aussi en Angleterre, lorsqu'on regarde celles et ceux surtout qui se cachent derrière ces titres, des propriétaires très puissants, une concentration des médias. On pense évidemment à Rupert Murdoch.
Oui.
Vous pouvez nous le présenter, Rupert Murdoch ?
Alors, Rupert Murdoch, c'est un mania de la presse qui est australo-américain. Donc, il est très implanté en Australie, très implanté au Royaume-Uni et très implanté aux États-Unis également. Et donc, ça fait partie de ces milliardaires qui mènent une offensive à la fois économique et idéologique, sachant qu'à travers ses médias, les médias qu'il possède, il possède aussi Sky News, il essaye d'appuyer les partis, les formations politiques qui serviront le développement de son empire.
Donc on voit que là, il y a une ligne idéologique, finalement.
Clairement, oui. Par exemple, il a racheté le Sun, qui était l'un des premiers, voire le premier tabloïd britannique, qui était plutôt ancré à gauche. Et sous son emprise, eh bien, c'est devenu un vaisseau amiral, je dirais, de la défense des conservateurs au Royaume-Uni.
Benjamin Dargent, comment on peut analyser aussi ceux qui détiennent les titres people en France ? Alors, j'ai cité quelques groupes exprès pour montrer qu'il y a une grande fluidité aussi. On a l'impression que les titres passent d'un groupe à l'autre assez rapidement, qu'il y a une grande porosité finalement. Alors peut-être même au sein des journalistes qui peuvent passer d'un titre à l'autre. Comment on peut l'expliquer ?
En France, la presse magazine, elle est détenue essentiellement par trois grands groupes. Il y a le groupe Prisma qui détient l'hebdomadaire Voici pour la presse People et qui vient de racheter France Dimanche et Ici Paris.
Exactement.
Au groupe CMI. Il y a le groupe Reworld Media
qui est mis donc de Daniel Kretinsky
qui était qui était l'ancien propriétaire de Public, qui l'a revendu à Heroes Media. Et Closer a été créé donc par le groupe EMAP. À l'époque, c'était un groupe anglais qui a été racheté par Mondadori, puis Reworld Media aujourd'hui. Donc nous, le magazine a toujours appartenu au même groupe, qui lui, par contre, a changé de main trois fois. Vous pouvez me
répondre. Et ça fait quoi justement ce changement de main ? Parce qu'on a l'impression que ces titres sont un peu, je dirais pas interchangeables, mais on les prend, on les vend, on se les rend.
Alors interchangeables, je sais pas. En tout cas, ils ont chacun leur spécificité. C'est des marques aujourd'hui. Enfin, en France, on parle d'ailleurs maintenant beaucoup de marques et plus de titres parce qu'on englobe Closer, Public ou Voici à travers leur magazine, effectivement, mais aussi leur audience sur le web et les réseaux sociaux. Donc ça devient une marque. Et comme toutes les marques, effectivement, elle a une valeur qui peut s'échanger d'un groupe à l'autre, suivant les intérêts, suivant les repositionnements aussi des groupes. Il y a des groupes qui se désintéressent de la presse populaire, alors que ce soit la presse télé ou la presse people ou la presse de divertissement au sens plus large, et qui donc vendent ces magazines-là pour se recentrer sur un autre secteur de presse qu'ils jugent plus porteur.
Maëlle Brun, est-ce qu'il faut comprendre que dans ce grand mercato ou turnover, c'est parce que peut-être que ces titres ou ces marques, pour reprendre les termes, sont pas assez rentables, donc du coup on s'interroge, on se dit est-ce que c'est toujours intéressant pour nous de les garder ?
Et ce qui est sûr, c'est que la presse People revient parfois cher aux groupes qui en sont les propriétaires, puisque les procès sont hebdomadaires. Dès qu'on fait une couverture sur des photos volées avec des photos volées d'un couple ou même d'une star seul, on sait qu'on aura un procès derrière. Donc évidemment, c'est une presse qui coûte cher quand même. Enfin, il y a des coûts à prendre en compte. Après, je pense qu'elle est encore rentable, sinon nous n'existerions plus.
Quand vous dites les procès sont hebdomadaires, c'est pas une formule, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un procès par semaine ?
Oui, alors quand on fait des couvertures avec des sujets sans procès, des sujets qu'on appellerait plus froids ou plus une enquête professionnelle sur une star ou autre, on n'a pas de procès. En revanche, ça ne sera pas forcément hebdomadaire. En revanche, dès qu'on met des photos volées, des photos volées, c'est-à-dire prises dans la rue à l'insu de la personnalité, là, évidemment, on a des actions en justice derrière. Et d'ailleurs, les quelques stars qui n'attaquaient pas jusqu'ici le font désormais. Enfin, maintenant, on les compte vraiment sur les doigts d'une seule main, les stars qui n'attaquent pas.
Et d'ailleurs, elles gagnent souvent.
Oui, elles gagnent systématiquement, oui.
Donc si elle gagne systématiquement, pour vous, finalement, on provisionne, on se dit, tiens, on va faire cette couverture en révélant telle photo volée, ça va nous coûter peut-être tant avec un procès qui va arriver systématiquement, qui va être peut-être perdu systématiquement. Donc c'est imaginé dans l'économie même de la presse ?
Tout à fait, c'est un calcul chaque semaine qu'on fait de coûts et de bénéfices. Combien de lecteurs vont être intéressés par cette histoire ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup derrière les mois qui suivent de prendre de procès si on parle d'un couple ? Les enfants d'ailleurs de stars, on a beau leur flouter le visage, ils peuvent également attaquer quand on les montre en photo. Donc évidemment qu'une couverture avec une série photo volée peut coûter cher. Mais c'est un calcul et puis c'est le rôle aussi de la presse People de dévoiler des choses.
Et dans ce qui détermine ce calcul, c'est le seul indicateur de la rentabilité qui prédomine ou vous vous posez aussi d'autres questions, peut-être plus morales ou éthiques ?
Non, bien sûr qu'il y a d'autres questions, et ça, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est je pense que Benjamin sera d'accord, c'est une conversation qui se tient en équipe. Des sujets de vie purement privée, des sujets d'adultère, etc., par exemple, sont largement discutés en interne. On n'est pas non plus une presse totalement sans morale et faite de mercenaires, c'est absolument pas le cas. Et beaucoup d'affaires, d'ailleurs, People dont les rédacteurs en chef étaient au courant, ne sont pas sorties parce que c'était trop violent pour les proches ou pour la personnalité en question.
Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, Maëlle Brun, vous disposez de quantités d'informations dans vos tiroirs que vous ne divulguez pas, peut-être parce que vous estimez qu'elles seraient pas rentables, mais surtout parce que vous estimez que ça ne rentre pas face à, dans votre ligne de moralité.
Oui, quelques-unes. Je ne sais pas si j'en ai plein dans les tiroirs, malheureusement, mais oui, quelques-unes.
Jamine Jean-Marc Daclia.
Oui, il faut dire que le système en France est très protecteur de la vie privée, hein, contrairement à d'autres pays, et ça se sait même à l'étranger. Donc il y a des stars américaines, par exemple, qui vont intenter des procès au magazine People ou aux médias français, sachant qu'il y a des dommages intérêts à récolter. Et par ailleurs, on sait aussi que la presse People est beaucoup plus respectueuse que d'autres médias à l'étranger. Et par exemple, George Clooney, s'il a souhaité que ses enfants suivent une scolarité en France, c'était parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de photos dans la presse de ses enfants qui seraient divulguées. Il y a cette forme d'autocensure, enfin de respect, y compris de la part des magazines People. Il y a deux tabous, c'est les enfants et la maladie, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un peu plus de tabous que juste ça, que ces deux-là.
Tout le reste, on peut y aller.
non, pas du tout. Et je rejoins Maëlle sur ce qu'elle dit. Effectivement, on se pose toujours la question de l'opportunité de révéler une information sur la vie privée d'une star, à savoir quelles conséquences ça peut avoir. Voilà. Et vous noterez que depuis une bonne quinzaine d'années, la presse People en France, c'est souvent des histoires de romans, c'est-à-dire des couples qui se font, qui se défont, des grossesses. On est quand même sur des nouvelles qui sont assez heureuses. C'est assez rare d'avoir des couvertures hyper plombantes, hyper tristes, avec des choses très graves. Voilà, la presse People, c'est une presse de divertissement. L'idée, c'est aussi de divertir nos lecteurs. Ils viennent parfois chercher un peu du rêve aussi, de vivre par procuration à travers la vie d'une star. Et la presse People en France, elle est gentille, si je peux me permettre, entre guillemets. Ce n'est pas une presse où il y aura des révélations scabreuses sur telle ou telle star, contrairement aux tabloïds anglais. Par exemple, j'ai un exemple très concret. À l'époque, donc on est dans les années, au mi-temps des années 2000, Kate Moss est à l'apogée de sa carrière. Et la presse, les tabloïds anglais, ont publié des photos de Kate Moss en train de consommer des stupéfiants en boîte de nuit. Voilà, la photo est... on ne peut plus accablante pour elle. Ça, par exemple, je pense qu'en France, on ne l'aurait pas fait. Si on avait un acteur ou une comédienne en train de faire la même chose, je pense qu'aucun magazine People ne se risquerait à le publier.
J'entends, vous dites on est une presse qui doit être divertissante, vous parlez de grossesse, néanmoins je pense que c'est pas si divertissant que ça lorsqu'on porte un enfant, qu'on veut choisir le moment où on va le révéler, que ça soit révélé par un titre.
Certes, après on note aussi qu'il y a beaucoup de comédiennes, en l'occurrence ça concerne les comédiennes ou les chanteuses ou beaucoup de personnalités féminines, qui se servent aussi de ça comme vecteur de communication. C'est-à-dire que quand elle donne une interview, je ne citerai pas le nom de la star, mais par exemple, nous, à Closer, on a révélé la grossesse d'une comédienne. Elle nous a donc fait un procès, qu'elle a gagné, évidemment, puisqu'il y a l'article 9 en France qui est donc le respect de la vie privée qui est très restrictif. Et cette comédienne, une semaine après le verdict, faisait la couverture d'un hebdomadaire consacré à la culture et au cinéma et posait enceinte en couverture, fièrement, en mettant en valeur son ventre, et parlait dans une grande majorité de l'interview de cette grossesse à venir. Donc,
oui, Benjamin D'Argent, je ne dis pas que ça ne sert pas peut-être les intérêts de certains ou de certaines, mais ce n'est pas parce que ça sert les intérêts de certaines que ça sert les intérêts de toutes.
Non, évidemment, mais dans la plus grande majorité des cas, voilà, il y a quand même aujourd'hui l'aspect people de la vie des stars est aussi un vecteur de communication pour ces mêmes stars. Quand un producteur de cinéma voit que les deux comédiens principaux de son film tombent amoureux sur le tournage de son film, je le mets au défi de nous dire que ça ne va pas servir à la promotion de son film.
Non, on comprend bien qu'on est dans des nuances, que la presse People peut être instrumentalisée, utilisée, être un support de communication, et puis parfois peut aussi révéler tout simplement à l'insu de la personne. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être elle s'en plaint. Maëlle Brun, vous souhaitiez réagir?
Oui, pour rejoindre ce que disait Benjamin, tout à fait, on l'a vu avec le cas de l'amour ouf, où la relation d'Adèle Exarchopoulos et François Civil a été révélée par Gilles Lelouch lui-même sur plusieurs plateaux, qui le faisait sous forme de gaffe, mais c'était quand même, alors je ne sais pas si c'était planifié, mais en tout cas, c'est le réalisateur lui-même qui a dévoilé cette histoire. Alors, tous les deux, François Civil et Adèle Exarchopoulos, rechignaient un peu et l'ont un peu disputé à l'écran. Mais bon, on voit bien que ça sert les projets artistiques. Et autre chose, par rapport à ce que disait Benjamin sur le fait qu'en effet, le récit des stars est assuré le récit de la vie des stars est assuré par les célébrités elles-mêmes. Nous, chez Public, on a gagné, les rares procès qu'on a gagnés nous avaient été intentés par des stars de télé-réalité qu'on avait montrées dans la rue, enfin avec des photos volées. Et les juges ont estimé qu'elles mettaient tellement en scène leur vie et que c'était tellement leur commerce et leur seule leur raison d'être qu'elles n'avaient pas à nous reprocher ensuite de nous emparer de leur vie.
Effectivement, bah après ça peut être aussi à double tranchant parce que même si je sais qu'il y a eu le cas de Nabila par exemple, effectivement, qui a intenté un procès sur des photos d'elle à la plage, je crois, et puis le procès a été perdu puisqu'on a considéré qu'elle mettait suffisamment en scène sa vie pour ne pas s'en plaindre quand d'autres le faisaient, même si c'est d'autres qui le font à sa place. À la rigueur, il y a peut-être une différence entre la personne qui expose sa vie et quand cette vie est exposée par d'autres acteurs. Mais pour finir sur la question de la grossesse, parce que vous me tendez la perche presque en parlant d'Adèle Exarchopoulos. On a vu récemment Paris Match sortir un scoop qui s'avère être un faux scoop d'une grossesse d'Adèle Exarchopoulos. Là, a priori, ça ne semble pas être un coup de communication orchestré par l'actrice.
Non, absolument pas. Non, moi, je parlais sur la relation et le fait que ce soit Gilles Lelouch lui-même qui l'ait révélé à plusieurs reprises.
Mais sur le cas de cette grossesse, qu'est-ce qu'on peut en dire quand même quand on publie, on est Paris Match, un titre quand même qui a toute une histoire, en couverture, une information comme celle-là?
C'est une erreur de leur part, mais alors quel journal en France, même de la presse dite sérieuse, n'a jamais publié une information qui s'est avérée fausse? Ça arrive à tous les titres, c'est arrivé à Paris Match malheureusement sur cette histoire, mais ça arrive aux Parisiens sur l'histoire du pont de Ligonnès, ça arrive au Monde de publier une nécro sur Internet d'un comédien ou d'une personnalité qui n'est pas encore décédée. Enfin, voilà, c'est une erreur, elle est regrettable, mais elle existe au même titre que pour tous les autres types de presse.
Jamil Jean-Marc Daclia, sur ce qu'on est en train de se dire.
J'irai dans le sens de Benjamin Dargent et Maëlle Brun, au sens où la presse people française est quand même attachée à des principes journalistiques, quoi qu'on en dise, et donc de vérification de l'information. Et certes, il peut y avoir des loupés, ça arrive. Elle, me semble-t-il, elle ne se trompe pas plus souvent que effectivement la presse dite sérieuse.
Je reviens quand même sur les cas de la grossesse, parce que vous parliez de deux tabous en partie, oui. Notamment le tabou médical. On n'est pas très loin du médical sur une grossesse, non? Parce que j'imagine que pour arriver à révéler une information comme ça, il faut aussi des dossiers.
Alors, déjà, c'est une information qui se voit, déjà, de temps en temps, quand même.
Oui, mais souvent, l'intérêt de la révéler, c'est quand elle ne se voit pas, d'où l'intérêt de le faire aussi avant les trois mois, etc.
Non. Alors, attention, généralement, les grossesses qui sont révélées dans la presse People, elles sont autour de 4 ou 5 mois. C'est-à-dire que on prend assez peu le risque de révéler une grossesse qui n'est pas encore
viable.
Viable. Et puis, dont on sait aussi, parce qu'on a des informations qui nous viennent aussi de l'entourage des people, et donc, quand généralement on révèle une grossesse, on sait que l'entourage proche, enfin, en tout cas les futurs grands-parents et les éventuels frères et sœurs, s'il y en a, sont déjà un peu au courant. Souvent, les stars font témoigner par leurs avocats du fait que personne ne le savait, tout ça, ce qui est rarement vrai, parce que nous, on le sait, et on a confirmation de ça. En plus, généralement, quand on révèle une grossesse, on le fait accompagné de photos. Et là, les photos, elles laissent assez peu de place au doute. Alors, il y a toujours le doute est toujours permis, évidemment, mais c'est quand même une confirmation supplémentaire de l'information.
C'est vrai que cette photo de Paris Match, en l'occurrence, là, elle était place au doute. Vous ne voyez pas ce qu'elle avait de spécial, par exemple.
Après, je ne vais pas commenter une information. Je n'étais pas à la conférence de rédaction. Je ne sais pas comment ça s'est fait après en interne chez Paris Match. Mais voilà, en tout cas, nous, on...
Non, mais c'est intéressant de voir que, effectivement. D'ailleurs, une question toute bête, même si la carte de presse est parfois contestée, c'est vous disposez de la carte de presse dans les rédactions de Public, de Closer.
Oui, tout à fait.
Pareil, du côté de Public, Maëlle Brun.
Oui, tout à fait. Et vraiment, les procédés, en fait, notre façon de travailler est la même que dans d'autres journaux, quoi. On a exactement les mêmes processus de vérification, les mêmes conférences de presse. Alors, évidemment, que la matière est plus fantaisiste, mais cette fantaisie-là, on l'a fait avec sérieux, en réalité. Et nos journées sont celles d'autres rédactions, hein, je pense. Rédactions de magazines plus sérieux, entre guillemets.
Bien sûr.
Parfois un avantage qu'est la photo. C'est-à-dire que nous, on prend le parti de publier des photos dites volées, des photos qui n'ont pas été autorisées et qui produisent une information en elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on révèle un couple de stars et qu'on a ce couple de stars en photo, main dans la main ou en train de s'embrasser dans la rue, il n'y a pas meilleure confirmation qu'une image.
Effectivement, vous n'êtes pas une presse qui utilise des photos d'illustration, des photos de révélation.
De révélation.
Néanmoins, est-ce que vous vous dites encore, quand vous révélez une histoire d'amour, justement entre des célébrités, je ne parle même pas de politique, on y viendra après, peut-être pourquoi on le fait ? Est-ce qu'on a le droit, parce que finalement, est-ce que ça concerne vraiment l'intérêt général, l'intérêt public ? Il n'y a pas quand même encore, j'imagine que vous avez résolu ce dilemme depuis longtemps, sinon vous ne travaillerez pas dans cette presse-là, mais on peut encore s'interroger en se demandant, finalement, est-ce que ça intéresse vraiment les gens ? Est-ce que les gens sont dans l'obligation de le savoir ?
Alors, ils ne sont pas dans l'obligation de le savoir. Par contre, je pense qu'ils aiment le savoir, puisqu'ils continuent d'aller en kiosque pour acheter nos magazines. Ils continuent de consulter nos sites Internet. Ils continuent d'aller sur nos réseaux sociaux. Et j'ai même envie de dire que, finalement, même les journaux dits sérieux, si vous prenez tous les sites Internet des journaux dits sérieux, alors ça ne sera jamais People, mais vous allez dans l'onglet Culture Média, et puis vous verrez qu'entre deux annonces de concerts ou de tournées, vous avez... la nouvelle relation entre tel acteur et telle actrice, ou tel acteur et tel acteur, ou tel chanteur et telle chanteuse. Bon, voilà, donc c'est un genre auquel les lecteurs français sont attachés. C'est les choses qu'on se raconte à la machine à café le lundi matin, ou tous les matins quand on arrive. Ça fait partie du papotage qu'on peut avoir avec nos amis, nos collègues. Et ça va alimenter, les dîners en ville. Quand ça m'arrive d'aller dans des endroits où je connais pas grand monde, quand les gens savent où je travaille, ils commencent par me dire la presse people, à la limite chez le médecin machin, et puis ils reviennent un quart d'heure après, alors c'est quoi les derniers potins? Donc il y a quand même une vraie curiosité, il y a un vrai intérêt. Voilà.
Qui est parfois pas loin d'un voyeurisme. On assume qu'on a tous. Mais c'est pour ça que je parlais d'attraction-répulsion.
Non, mais c'est ça.
Voir un plaisir coupable, parfois.
Et c'est la même forme d'attraction qu'on peut avoir pour des faits divers. Regardez, les faits divers est un genre qui plaît énormément en France. Il y a 1000 émissions de faits divers. Dans les journaux télévisés, les journaux, les quotidiens, il y a toujours des pages faits divers. On pourrait se dire, il y a un attrait pour le morbide. C'est comme ça, il y a un intérêt pour ce genre. Même titre que pour la presse people.
Jamais de remarque d'accueil.
En fait, la culture de la célébrité, c'est quelque chose qui est institué. Il y a une vraie curiosité envers les célébrités, mais derrière cette curiosité, il n'y a pas seulement du voyeurisme. Voyeurisme, c'est un peu réducteur. Il y a aussi simplement essayer de comprendre ce que ces gens ont de plus que nous, que la moyenne. Il y a des interrogations, effectivement, par rapport à la norme. Est-ce que leur comportement va dans le sens des normes de notre société? Qu'est-ce que ça nous dit des excès possibles dans une société? Et il y a aussi ce que vous évoquiez, c'est-à-dire c'est aussi un liant, ça fait partie du lien social de parler des célébrités. Par exemple, on parle des célébrités pour parler de situations de la vie quotidienne, par exemple, ou de questions de société, parler de l'adoption. Mais on parle des célébrités pour ne pas parler de soi. Ça permet de savoir ce que les autres pensent sans s'avancer de manière masquée, mais ça sert de lien, en fait, dans la société.
J'aimerais revenir un instant sur l'intérêt pour ces groupes aussi de détenir des titres de presse people. Alors, il y a la rentabilité, elle est quand même discutée, mais comme l'ensemble de la presse, encore cette semaine, on a eu un rapport de l'ARCOM qui montrait qu'il y avait beaucoup de titres de presse qui étaient déficitaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts aussi pour un groupe de détenir une marque ou un titre de presse people ?
C'est une pièce, je dirais, importante dans un portefeuille de médias. Ça permet de couvrir certains besoins, certains créneaux, certains segments, même en termes de lectorat. Et puis au-delà de ça, puisque ce ne sont plus simplement des titres imprimés, des titres print, c'est aussi pouvoir avoir un certain rayonnement sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est faire partie de cette grande, on va dire, lessiveuse d'Internet, enfin, du Web 1.0 et du Web 2.0.
Une portée politique aussi qu'on peut avoir aussi avec la presse People en France. Ben, alors, on a parlé de la portée politique de Rupert Murdoch tout à l'heure en Angleterre et même aux États-Unis.
Oui, c'est un. Alors là, c'est les politiques qui entrent en jeu, c'est-à-dire qu'eux aussi ont intérêt à être présents dans la presse people, ou en tout cas se présenter de façon people. Ils le font d'ailleurs spontanément sur leur compte des réseaux sociaux, donc c'est important. Et puis pour des groupes qui pourraient avoir des intentions politiques, c'est une manière aussi d'essayer de rendre populaire leur poulain.
Il y a des partis en particulier qui...
Les partis d'extrême droite, il y a encore, on va dire, 20 ans, il y avait un vrai tabou par rapport à l'extrême droite. On ne parlait pas des personnalités d'extrême droite dans la presse people. Aujourd'hui, alors, quelle est la poule, quel est l'œuf ? Mais en tout cas, la dédiabolisation, ça fonctionne aussi à travers la presse people.
Benjamin Dargent, sur la question de la dédiabolisation, vous pensez que la presse people a participé à ce phénomène de dédiabolisation de l'extrême droite ?
En tout cas... Je ne sais pas si elle y a participé, mais on a, à Closer en tout cas, on a toujours pris les hommes politiques pour ce qu'ils étaient, peu importe. Enfin, comme on le traite sous l'angle de la vie privée, finalement, c'est pas qu'on s'intéresse peu à leurs idées, mais c'est pas ce qui est fondamentalement déterminant. Et je sais que, alors j'étais pas encore rédacteur en chef à l'époque, mais on a eu des sujets photos en couverture avec Marine Le Pen et Louis Alliot à l'époque. Alors je sais plus s'ils étaient en vacances, mais bref, ils étaient dans un contexte été, en tout cas. Voilà. Et je ne sais pas si ça participe ou pas à la dédiabolisation, mais en tout cas, nous, on essayait de traiter le spectre politique le plus large possible, que ça soit de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Jean-Luc Mélenchon a été, je crois, un des premiers hommes politiques à accorder une interview à Closer. Il l'a fait parce que... Il le disait lui-même dans l'interview, d'ailleurs. Pardon. Il l'a fait parce qu'il y avait un intérêt. Il allait parler à des gens, finalement, à qui il ne s'adressait pas. À ses électeurs, finalement, quand il donne une interview dans un magazine type Le Point, L'Express, je ne sais pas, il sait qu'il
va... Il prêche des convaincus, ou du moins sur un terrain sur lequel il est habitué à aller, même si c'est des gens qui ne partagent pas ses opinions politiques. Il ne va pas s'ouvrir.
Et puis, on a un électorat qui est plus populaire que ces titres-là aussi. Donc, il va aller parler à ces gens-là. Il va parler aussi, peut-être, à la base de son électorat, mais la vraie base, à la base ouvrière, et voilà, qui... peut-être est plus enclin à acheter notre presse qu'à acheter Le Point. Parce que, je ne sais pas, c'est plus divertissant de lire Closer que Le Point. Je n'ai pas de jugement là-dedans. Mais, donc, il avait, lui, compris ça. Il nous l'a expliqué, d'ailleurs, dans l'interview. Et c'est ce qui a ouvert la porte derrière à tous les autres. C'est-à-dire que derrière, après cette interview-là, on a eu et on a toujours régulièrement des interviews de personnalités.
C'était en quelle année, ça, cette interview-là? Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, donc c'était peut-être avant une élection présidentielle.
Sans doute, je ne saurais plus situer l'année.
Une dizaine d'années peut-être.
Ouais, une dizaine d'années. Ouais.
Maëlle Brun.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'était vers 2015 ou 2014, Mélenchon. Et on a vu, moi à l'époque, j'étais chez Closer et avec Benjamin et je m'occupais de tout ce qui était politique. Et on avait vraiment vu la différence. On a vu la différence entre l'ère François Hollande où la presse people n'était finalement pas très considérée. Et d'ailleurs, ça lui avait porté préjudice puisque Gaspard Ganzer, qui était le boss de la communication de l'Élysée à l'époque de l'affaire Gaillet, racontait ensuite dans son livre qu'à la veille des révélations de Closer, il avait cherché, il courait dans tout l'Élysée pour trouver le numéro de la rédactrice en chef et que personne ne l'avait. Alors qu'une fois Emmanuel Macron élu, on a vu, je pense que Benjamin, c'est toujours le cas pour lui aussi, mais moi je reçois régulièrement des coups de fil de la communication de l'Élysée parce que tel ou tel article web n'est pas tout à fait exact. On voit qu'ils accordent vraiment du crédit, et de l'importance en tout cas à la presse people et à ce qu'elle peut raconter sur les membres du gouvernement. Donc il y a un vrai intérêt des politiques pour la presse people et c'est pour ça qu'ils donnent des interviews et qu'ils veillent vraiment, il y a une vraie veille des services de communication sur ce qui est dit sur les sites people.
Et vous êtes sollicité aussi, Maëlle Brun, par exemple, des personnalités politiques qui aimeraient profiter de votre lectorat, de votre marque pour pouvoir promouvoir une communication ou un message politique.
Oui, tout à fait. Alors après, chez Public, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'interviews politiques que Closer. C'est plutôt la cité de Closer, mais ça a pu nous arriver d'en faire. Et en tout cas, sur les photos à la plage, les révélations de vie privée, etc., on ne se prive pas de le faire. Et par rapport à ce que vous disiez sur la dédiabolisation de l'extrême droite, nous, il est vrai qu'on avait, il y a quelques années, publié des photos d'Éric Zemmour et Sarah Knafaud. Il n'y avait pas de parti pris politique, en fait, là-dedans. C'était plutôt parce qu'il avait la vie privée la plus intéressante, en fait, des candidats de cette élection présidentielle, quoi. Et que c'était quand même intéressant. Et alors là, il y avait un aspect aussi d'intérêt public, de voir qu'il était avec sa conseillère et qu'ils avaient une vie ensemble, alors que lui-même était encore marié, d'ailleurs. Donc ça relevait quand même d'un certain intérêt général.
Vous dites intérêt général, c'est ça. Vous dites, voilà, finalement, puisque ces photos, pour vous, manifestent des idées qui ne sont pas forcément des idées qui sont au sein de leurs différentes lignes politiques. Je crois qu'aussi, du côté de Closer, vous avez révélé des choses avec l'affaire
Éric
Zemmour.
Avec Éric Zemmour et Sarah Knafaud. Et effectivement, il y avait un décalage entre le discours d'Éric Zemmour et la réalité de sa vie. Et donc, du coup, là, pour le coup, il y avait un intérêt général à aller sur la révélation de cette relation et ce qui en a suivi. Donc on y est allé aussi.
Quand on parle de dédiabolisation, c'est finalement une dépolitisation, c'est ça. C'est parce que les idées politiques ne sont pas au premier plan, on se rend compte que c'est avant tout des femmes et des hommes qui aiment, qui se trompent, qui divorcent.
Oui, alors il ne faudrait pas se tromper non plus, parce que c'est dépolitisation au sens où on n'a pas d'arguments politiques, d'idées politiques qui sont exposées, mais c'est une autre manière de communiquer pour les politiques. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par la manière dont ils se présentent, dans la manière dont leur vie est mise en scène, on peut s'interroger sur est-ce qu'ils ne sont pas en train de défendre leurs idées, justement, de manière symbolique, de manière esthétique. Je vois, par exemple, le passage obligé de tous les politiques digne de ce nom dans Paris Match, c'est une occasion pour eux de... Enfin, c'est une carte de visite. Et donc, par exemple, lorsque François Fillon apparaît avec son château derrière lui, c'est une erreur politique majeure en termes de communication. Mais certains acceptent de se mettre en scène d'une certaine manière parce qu'ils pensent que ça va plaire à un électorat, soit leur cœur de cible, soit d'autres franges de l'électorat.
D'aller effectivement dans une logique de conquête.
Une logique de conquête, c'est une façon de faire de la politique autrement.
Maël Brun.
Oui, et puis on l'a d'ailleurs vu avec les Macron qui ont, en 2017, abondamment mis en scène leur vie privée. Quand Emmanuel Macron a été élu, il est d'ailleurs monté sur scène avec Brigitte en lui tenant la main, ce qui n'était pas anodin. Pendant toute la campagne, on avait eu l'impression d'élire une équipe, plus qu'un candidat. C'était vraiment un duo au-delà du couple. Donc les Macron ont quand même vraiment abondamment mis en scène leur histoire. Et pour ce qui est de l'intérêt général, j'avais un exemple en tête, c'était Florian Philippot, dont l'homosexualité avait été révélée dans la presse People. Alors certes, on va dire que on peut dire que c'est violent, etc. Il n'empêche que ça avait quand même un intérêt général, puisque ça a éclairé aussi la raison pour laquelle Marine Le Pen n'était pas tout à fait pour la manif pour tous, etc. Ça a éclairé quand même certaines visions de Marine Le Pen à l'époque. À ce niveau-là, en fait, ça pouvait avoir un intérêt politique au-delà de l'histoire privée.
Même si cet intérêt général est quand même plus dur à mobiliser lorsqu'on parle de stars qui ne sont pas des stars politiques. Alors effectivement, là, vous prenez deux exemples assez saillants, mais c'est très intéressant de vous entendre, de comprendre justement comment vos choix sont guidés. Et on va continuer à en parler.
France Culture.
De toute façon, tu veux qu'on parle de quoi avec Hollande? Je sais qu'en ce moment, les femmes, c'est un sujet sensible pour lui.
La fabrique de l'information.
Je m'excuse, mais chez nous, on parle que de ça, mec. Ça fait la une de tous nos journaux qu'il ait trompé sa femme avec une actrice.
François Celtiel.
Et on en parle dans la fabrique de l'information avec Benjamin Dargent, qui est rédacteur en chef de l'hebdomadaire Closer, avec Maëlle Brun, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Public, et avec Jamine Jean-Marc Daclia, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Si on revient un instant, et on reviendra bien sûr en France sur ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, puisque c'est cette actualité-là qui nous a donné l'idée de cette émission. En quoi ce procès pourrait être déterminant? Je l'ai rappelé au début, hein, On a un membre de la famille royale qui attaque justement ce grand quotidien, ce tabloïd pour des pratiques illégales. On parle d'écoute téléphonique, on parle d'infiltration de certaines personnes chez les policiers, de sous-doublement, etc. En quoi ce procès pourrait avoir un rôle majeur?
Alors, ce procès, il s'inscrit en fait dans une série de procès qui ont eu lieu depuis le milieu des années 2000. Et on est à un moment charnière, en fait, dans l'histoire des médias britanniques et du rapport que l'opinion entretient avec ces médias. Parce que jusqu'à présent, ce qui prévalait, c'était la liberté d'expression, la liberté de la presse à tout crin. C'était le principe sacré. Et donc, ça a autorisé tous les types de reportages possibles, y compris sur l'intimité des gens célèbres. Et maintenant, ce procès, à la suite d'autres procès, indique que l'opinion publique n'est plus d'accord avec ça, et notamment sur la question des méthodes employées. C'est-à-dire, donc, détective privé, écoute téléphonique, piratage de téléphonique. Il y a eu un drame, justement, au milieu des années 2000, c'est-à-dire qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu, et le tabloïd News of the World, à l'époque, avait fait borner, enfin, avait activé sa messagerie, ce qui fait que la famille avait cru qu'elle était encore vivante. Mmh. Et donc, ça avait beaucoup choqué l'opinion. De la même manière que lorsqu'on touche à la famille royale et qu'on apprend que, par exemple, les dossiers médicaux de membres de la famille royale ont été rendus accessibles à des tabloïds, eh bien ça a beaucoup choqué l'opinion. Et la justice, le système judiciaire en Grande-Bretagne s'est adapté à ça et maintenant est beaucoup plus rigoureux concernant la protection de la vie privée.
D'ailleurs, quand on est justement en Grande-Bretagne, il faut comprendre l'ampleur hein, justement des techniques qui sont employées. Je vous propose d'écouter un petit extrait qui remonte aux années 2010 où Scotland Yard était directement mobilisé.
Scotland Yard, dans l'œil du cyclone. Deux commissaires viennent de tomber en moins de 24 heures. Le patron d'entre tous, Paul Stephenson, a eu la mauvaise idée d'embaucher cet homme, Wallis, comme directeur de communication de la police. Or, ce Wallis est un ancien du News of the World, le journal qui a pratiqué les écoutes illégales. La police a donc pu être infiltrée par des anciens journalistes du journal à scandale. C'est ce que l'enquête devra déterminer.
Et on verra ce que l'enquête, ce que le procès va déterminer. Il va durer plusieurs semaines. On voit qu'il s'inscrit quand même dans une longue tradition hein, de procès, dont certains qui ont été gagnés d'ailleurs par la famille royale, qui jusqu'ici d'ailleurs s'exprimait assez peu. Hein, pas de complaintes, pas de commentaires. Et on voit que le prince change de stratégie, peut-être parce qu'il en a directement souffert, Benjamin D'Argent.
Oui, alors après, le cas d'Harry est un petit peu différent parce que, par contre, tous les tabloïds anglais ont des accréditations à Buckingham. Donc, y a quand même une collaboration entre ces tabloïds et la famille royale, pour ne parler que de la famille royale, hein, j'entends. Mais ils sont accrédités, leurs journalistes suivent les déplacements, les différents événements sur lesquels sont le roi, les princes et les princesses. Voilà. Harry, il a quitté la famille, il l'a quitté... alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du Mexit, ça pourrait être une émission en soi, mais il l'a quitté parce que, justement, il ne supportait plus toute cette attention médiatique qui est en... Alors, elle n'est pas organisée par la famille royale, mais en tout cas, la famille royale...
Tolérée, on peut dire.
Oui, elle est tolérée. Mmh. Et de toute façon, les tabloïds ont aussi une certaine réserve avec la famille royale. Je pense que la famille royale... Il y a une espèce d'entente cordiale entre les tabloïds anglais et la famille royale. Et finalement, il y a le seul membre de la famille royale qui ne bénéficie pas trop de cette entente cordiale, c'est Harry, sur laquelle, effectivement, les tabloïds tapent depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni.
Voilà peut-être pourquoi il décide de prendre à bras-le-corps ce sujet. On voit qu'il est accompagné aussi, il n'est pas tout seul. Hein,
non, il n'est pas tout seul. Non, mais...
personnalité. Est-ce que disait justement à l'instant Jamie Jean-Marc Daclia, est-ce que vous partagez cette idée d'une opinion justement anglaise qui est peut-être en train de se retourner, de comprendre qu'il y a peut-être des dérives de cette presse qu'ils ont tant aimée, tant lue? Et est-ce qu'à l'inverse, on pourrait dire qu'en France, il y a peut-être un peu plus de tolérance sur les marges de manœuvre de la presse que vous représentez pour divulguer telle ou telle histoire?
Alors, nous, la marge de manœuvre, elle est encadrée par la loi, donc de toute façon, on ne peut pas vraiment y déroger, c'est-à-dire qu'il y a comme on disait tout à l'heure, il y a l'article 9 du Code civil qui, défend le respect de chacun à sa vie privée. Donc, Voilà, nous, ça nous, je veux dire, la justice nous impose, même si
même si vous forcez un petit peu, puisqu'on a compris que c'était même pensé, imaginé.
Évidemment,
de forcer la justice.
C'est une contrainte qu'on a
anticipé,
qu'on anticipe, qu'on accepte. Et quand on sort une information ou quand on dévoile une photo, on sait quelle va être la conséquence. Maintenant, il y a des degrés aussi. C'est-à-dire que c'est pas la même. Enfin, vous n'êtes pas condamné à la même chose quand vous révélez qu'une personnalité, je sais pas, consomme des stupéfiants ou est malade ou a trompé sa femme, que quand vous révélez qu'il a une nouvelle petite amie alors qu'il était célibataire la semaine d'avant et que bon, c'est c'est une romance tout à fait classique, normale. Voilà, la condamnation derrière n'est pas la même. Donc, ça nous impose. Enfin, là, pour le coup, ça s'impose à nous, à toutes les rédactions, aussi de réfléchir à comment on présente les choses, sous quel angle, sous quelle forme, quelle est la limite à franchir, ne pas franchir, voilà.
Jamine Jean-Marc Daclilla, par rapport à cet effet miroir.
Oui, il y a quand même une évolution en France qui est l'évolution inverse par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en France, les tribunaux, de plus en plus, dans leur jurisprudence, accordent de l'attention à l'intérêt général. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'intérêt général. Et ça, c'est depuis 2004. Le docteur Gubler, l'ancien médecin de François Mitterrand, avait été poursuivi par la famille de François Mitterrand parce qu'il avait révélé que les bulletins de santé que lui-même publiait étaient faux à la demande du président à l'époque. Et donc, à la suite de la publication de son ouvrage, l'ouvrage avait été interdit. Et il s'était retourné vers la Cour européenne des droits de l'homme avait elle-même condamné la France en disant l'intérêt général, c'était des informations d'intérêt général. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de tribunaux, notamment celui de Nanterre, qui est très couru pour les histoires de violation de la vie privée, qui prennent en compte quand même, qui examinent au cas par cas et qui essayent de voir si l'information présentait un intérêt pour le public.
Oui, c'est là. Si je peux apporter une précision, dans les condamnations qu'on peut avoir, une personne qui a toujours énormément communiqué sur sa vie privée, à travers des interviews, dans des livres, qui s'est raconté, machin, enfin voilà, qui a été loin dans ses révélations sur lui-même, obtiendra toujours moins que quelqu'un qui a farouchement préservé
sa... Que Jean-Jacques Goldman, par exemple. Voilà, pour prendre l'archétype d'un personnage qui a su préserver sa vie privée. Maëlle Brun, vous évoquiez tout à l'heure le couple Macron. Je crois d'ailleurs que vous avez écrit un ouvrage sur Brigitte. Qu'est-ce qu'elle représente, Mimi Marchand, dans notre paysage? Parce qu'on l'a assez proche quand même du couple Macron.
Oui, elle l'a été. Écoutez, après, je ne peux pas non plus vous donner tout le fonctionnement des arcanes de la presse People. Elle est à la tête elle a été à la tête d'une agence qui s'appelle Best Image et qui fournit les magazines People, qui abreuve les magazines People en photos de stars, etc. Elle est elle-même très proche de célébrités. Après, pour le couple Macron, maintenant, je ne sais pas exactement la nature de leur...
Vous avez écrit un livre sur Brigitte Macron. J'imagine, quand on écrit un livre sur Brigitte Macron, oui, Mimi Marchand n'est jamais très loin.
Alors moi, en l'occurrence, je l'avais informée de l'écriture de ce livre parce que je la connaissais par mon boulot, mais elle n'est absolument pas intervenue, elle est Macron non plus d'ailleurs.
D'accord.
Donc là, on...
Non, ce que je voulais savoir, c'est en quoi ce nom Mimi Marchand s'accompagne toujours de scandales. C'est assez sulfureux, c'est un personnage assez sulfureux.
oui, peut-être. Après, c'est... Je ne sais pas trop quoi vous en dire.
C'est un tabou, on peut dire que c'était un tabou dans la presse People, où on n'en parle pas, c'est ça?
Non, absolument pas, juste pas... Enfin, c'est quelqu'un avec qui je travaille, donc...
Donc il ne faut pas se fâcher avec quelqu'un avec qui on... Voilà, Benjamin Dargent, vous n'allez peut-être pas rebondir sur le sujet, il ne faut pas se fâcher avec Mimi Marchand.
Non, mais enfin, vous parliez de scandale, machin. Elle travaille dans elle a une agence photo qui fait aussi des photos paparazzi. Voilà, elle est
partie
prenante, entre guillemets, de tous les clichés qui peuvent circuler sur la presse People. Voilà, donc, comme c'était une actrice de ce milieu-là, elle est victime, entre guillemets, de tous les clichés qui peuvent y avoir sur la presse People.
Jamil Jean-Marc Daclilla.
Je pense qu'il faudrait lui consacrer une émission entière, en réalité, parce que, bon, juste...
Il faudrait trouver d'autres intervenants, en tout cas, que Maëlle Brun et Benjamin Dargent, pour avoir une heure d'antenne à ce sujet-là.
C'est ça. Parce que, bon, je pense que la difficulté, vue de l'extérieur, c'est qu'elle a un rôle assez flou, en réalité. Bon, elle dirige effectivement une agence de photos paparazzi, mais vous l'aviez évoqué tout à l'heure, elle a été quand même à l'œuvre dans la communication du couple Macron, déjà pour qu'ils soient plus connus, pour que leur situation matrimoniale particulière, enfin la différence d'âge qui donnait lieu à des rumeurs, à des aussi des médisances, que voilà, ce soit quelque chose d'assumé et qui leur permette d'être dans le paysage avant même que le président soit élu. Il y avait ça, mais il y a aussi l'affaire Takieddine où elle est soupçonnée d'avoir suborné un témoin et avoir fait qu'il se rétracte par rapport à ses accusations concernant Nicolas Sarkozy. Et puis aussi l'affaire Karine Le Marchand où il y a eu un procès parce qu'elle aurait menacé de divulguer des photos de la fille de Karine Le Marchand sortant d'un commissariat.
C'est en ce sens, alors, pour reprendre un peu, pour prolonger peut-être un peu moins politiquement correct les propos de Benjamin Darjan, où elle incarne finalement à la fois les dérives de la presse people, le milieu, c'est un personnage phare finalement.
C'est un personnage phare, c'est un personnage trouble et en même temps, ce n'est pas la presse people à elle seule. Hein. C'est une espèce de franc-tireur.
Bon, on fera une émission consacrée donc, à Mimi Marchand prochainement. Peut-être pour finir aujourd'hui là, avec vous, Benjamin Darjan et Maëlle Brun, les perspectives de cette presse people. Alors, on l'a un petit peu dit sans le développer, mais on sait que les réseaux se sont arrivés. Ils ont complètement changé les règles du jeu puisque vous n'étiez plus maintenant les seuls à révéler la vie privée des gens, les stars pouvaient les faire par elles-mêmes. On sait que vous faites face à une concurrence assez forte sur le numérique, d'autres marques, il y a aussi des influenceurs, que la presse papier accuse le coup, mais comme la presse magazine en général. Donc, quelles sont les perspectives d'évolution aujourd'hui quand on est deux marques comme les vôtres, Closer ou Public, pour continuer à exister dans le paysage et imaginer surtout la suite, parce qu'on sait que les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent en ce qui concerne la crise de la presse, Benjamin Darjan. Voilà.
Les perspectives d'évolution, elles se situent aujourd'hui sur le web dans un premier temps et sur les réseaux sociaux là dans un second temps et même actuellement. Le genre people, il passe beaucoup par l'image. C'est aussi ce qui fait le succès de nos magazines, c'est que pour l'instant, les seuls supports sur lesquels on peut voir des photos paparazzi, finalement, c'est les magazines. Il n'y en a pas sur Internet, il n'y en aura pas sur les réseaux sociaux, peut-être que ça changera demain, ça va dépendre de l'économie de ces supports-là. Mais en tout cas, c'est un genre qui vraiment, on peut raconter une histoire avec des images. Et donc, les réseaux sociaux étant porteurs d'images, c'est un débouché parfait. Mmh. Et puis, on voit aussi que les audiences de nos réseaux sociaux et de ceux de nos concurrents sont en constante progression. C'est donc que c'est un genre qui continue de plaire. Et aujourd'hui, ça passe beaucoup par la vidéo, par exemple.
Oui, on voit d'ailleurs je trouve que, enfin, si je peux me permettre, ces vidéos parfois on manque un peu d'intérêt. On a juste des extraits comme ça, bruts, de sortie, d'entrée. Et on est aussi confronté à une sorte de flux incessant de ce genre de vidéos, parfois d'ailleurs concurrencés par les amateurs eux-mêmes, par les gens. Donc on a du mal, j'imagine, quand on a un titre, à se distinguer face à ce flux permanent d'extraits de stars à droite à gauche.
Alors, sur les réseaux sociaux, on joue le même jeu, c'est-à-dire que nous aussi on diffuse, et après c'est à celui qui le diffuse le mieux, qui l'englobe le mieux, qui finalement tirera son épingle du jeu pour accroître son audience et puis voilà, performer. Et après, pour les magazines, on a la chance encore d'exister, d'être en kiosque toutes les semaines. Et donc là, c'est à travers l'angle, c'est à travers la manière dont on va raconter l'histoire. Finalement, on est il y a une manière de faire du storytelling avec ces infos people que seule la presse people en France est encore capable de le faire. Quand vous lisez une news sur Internet, elle n'est pas aussi bien écrite, pas aussi bien formulée, pas aussi bien éditée que dans un magazine, finalement. Et c'est ce qui fait nos différences par rapport aux concurrents sur Internet.
Maëlle Brun, vous partagez cette idée ?
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur les vidéos, en effet, parfois, on en balance beaucoup parce que c'est quelque chose qui plaît aussi à notre public. En revanche, toutes ne manquent pas d'intérêt. Et nous, récemment, on en a eu l'exemple avec une vidéo qu'on avait diffusée sur public.fr, qui était celle de Brigitte Macron, traitant de Salcone, les féministes, qui avaient... milité devant contre le spectacle d'Harry Habitant. Donc voilà, là, c'était une vidéo pour le coup qui a fait énormément parler et qui a eu un intérêt qui a totalement dépassé le simple secteur people.
Oui, ça a été à un moment donné un fait politique à cet instant précis.
Voilà, tout à fait. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Benjamin, il faut qu'on se serve des images et qu'on les édite beaucoup mieux que sur le web. Et puis, nous, et tous les magazines le font, je pense, on ne peut plus se contenter de dire telle star se marie ou telle star est enceinte. Donc, on va aller au-delà, apporter d'autres infos, parfois montrer un peu le décalage qu'il y a entre une communication Instagram et la réalité. Prendre une star qui est hyper lisse dans sa communication et montrer en quoi elle est plus trouble et elle peut être plus sombre, plus antipathique sur les plateaux, en coulisses, etc. Donc on a quand même encore un rôle et au-delà de, enfin, il y a l'image et tout ce qui est
l'image et ce qu'il y a derrière l'image, et donc Maëlle Brun avec Public justement peut explorer ce qui passe derrière l'image. Public, pour reprendre le titre de votre marque, puisque j'ai compris que c'était une marque. Tout de suite, on a rendez-vous avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour François. Bonjour Alexandra Delbault.
Bonjour Emmanuel.
Le 7 janvier dernier, vous étiez aux côtés de Guillaume Erner pour une matinale spéciale consacrée au prix Nobel. En quoi ce type de rendez-vous en public permet-il, selon vous, de renouveler la manière de parler de science à la radio et de donner à entendre non seulement les découvertes, mais aussi les parcours, les doutes et les méthodes de celles et ceux qui font la recherche aujourd'hui ? Et le fait que cette matinale se soit déroulée en public a-t-il modifié votre perception de la transmission du savoir ? Ça, c'est une question des auditeurs.
Oui, c'est très différent. En fait, quand on fait de la radio en plus le matin, on a une forme de routine en fait. Quand j'arrive dans le studio, j'ai parlé à personne en fait le matin, et puis je parle à Guillaume et je m'adresse en fait aux auditeurs, aux auditrices. Là, le fait de voir du public, c'est finalement un petit peu se rendre compte qu'on est écouté. Ça paraît vraiment bête dit comme ça, mais en fait c'est un peu ce que j'ai vécu. On fait pas des extérieurs comme on appelle ça en public très régulièrement. Là, c'était extrêmement particulier. On a reçu 5 prix Nobel, 4 dont j'ai pu faire en plus la interview en fait avec Guillaume Erner, donc c'est pas tout à fait un matin normal pour moi non plus par rapport à ça. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de le faire en public, c'est aussi rendre accessible l'antenne, mais c'est aussi rendre accessible les invités, c'est-à-dire qu'on a pu voir comment se faisait la radio, on a pu voir en fait ces prix Nobel là, et ça nous rapproche finalement un peu des auditeurs et auditrices, et puis ça laisse aussi des temps d'échange en fait après l'émission, et sur le contenu même, là on a pu voir qu'on a pu faire parler deux prix Nobel de physique quantique ensemble, mais aussi un prix Nobel d'économie et un prix Nobel sur l'immunité, sur la physiologie. Donc on voit que ça transcende un petit peu tout ça.
France Culture revendique une place singulière dans le paysage radiophonique, comme radio des sciences, des savoirs et des chercheurs. Qu'est-ce qui, à vos yeux, distingue la manière dont la chaîne traite les sciences et comment cette identité se construit au quotidien dans vos choix éditoriaux ?
Déjà, si on regarde un petit peu en termes de volume ou de nombre d'émissions, il y a énormément d'émissions en fait de sciences à France Culture. Je peux présenter et nommer finalement certains de mes camarades en fait de radio, par exemple. Il y a Natacha Trioux qui présente la science EQFD à 16h. Il y a ma chronique qui est donc à 6h52 le matin. Il y a aussi les chantiers de la recherche juste avant qui invitent beaucoup de scientifiques. Et puis il y a Aurélie Luneau pour De cause à effet. Il y a Antoine Beauchamp pour Science Chrono. Il y a Étienne Klein pour la conversation scientifique. Et puis Carnet de santé avec Marina Carré-Dancos. J'espère n'oublier personne. Mais on voit qu'il y a finalement plein de sciences traitées. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on ne se marche pas dessus. C'est-à-dire qu'on a chacun nos places, on a chacun nos angles, on a chacun nos sujets, et on a suffisamment d'espace pour justement pouvoir aborder tout ça. L'autre particularité selon moi de France Culture par rapport justement aux sciences, c'est que on a le temps, en fait, d'expliquer. Moi, j'ai une chronique de 5 minutes le matin. C'est toujours un peu difficile de faire passer uniquement un seul enjeu principal en si peu de temps. Mais habituellement, les émissions font au moins une heure. Et en une heure, on a le temps d'expliquer. On a le temps d'apporter de la nuance, de ne pas voir tout en blanc ou en noir, de ne pas faire de dichotomie. Et puis, l'autre enjeu, c'est aussi le fait d'inviter des chercheurs et chercheuses. Et en fait, ça, c'est commun à tout France Culture. C'est-à-dire qu'on en invite que ce soit en sciences ou non, en histoire, en économie, en droit. Et c'est finalement, qu'on voit dans l'ensemble de la chaîne, c'est avoir cette méthode scientifique. C'est apporter un éclairage, en fait, un petit peu avec méthode et sans être prise à partie dans un débat.
Chaque matin, vous décryptez en 5 minutes les dernières actualités scientifiques et leurs enjeux. Vous l'avez indiqué à l'instant, mais quelle est votre intention éditoriale lorsque vous choisissez un sujet, que les auditeurs retiennent des connaissances, une méthode ou bien une autre manière de regarder le monde ?
Déjà, dans mon choix de sujet, je pense que c'est intéressant de dire que des études scientifiques qui, il en parie vraiment absolument tout le temps, des centaines, probablement des milliers par jour. Mon choix, il se porte avant tout sur quelque chose qui titille ma curiosité. Et je me dis que si ça m'intéresse moi, déjà, il faut que ça m'intéresse moi pour que ça puisse intéresser les auditeurs et auditrices. Sur le contenu, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les résultats qui m'intéressent. Les résultats peuvent être spectaculaires, parfois on ne parle que de ça et c'est important, mais c'est plutôt la démarche scientifique qu'il y a derrière, c'est-à-dire la méthode, en fait, comme vous le disiez. Comment est-ce que les chercheurs ont fait pour répondre à la question, en fait, qu'ils se posaient? Et puis, c'est aussi apporter une forme de nuance pour essayer de faire comprendre et passer l'idée qu'on ne tranche pas forcément tout le temps des débats. Et on n'a pas forcément les moyens de le faire en permanence. Et la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque à chaque fois, en fait, pour aller plus loin? Comme je disais, en 5 minutes, on est toujours un petit peu limité. Et donc, ça me fait un peu de peine chaque matin de devoir m'obliger à réduire finalement un petit peu les enjeux, parce que les enjeux sont souvent multiples par rapport à ça. Et puis le dernier angle un petit peu de ma chronique, et c'est un peu à cheval entre la vulgarisation et le journalisme, c'est faire passer des informations, donc vraies, vérifiées, concrètes, en fait, qui luttent aussi contre la dissémination de fausses nouvelles, mais c'est aussi faire de la vulgarisation, et donc passer un peu de mon amour des sciences et de ma compréhension des sciences, en fait, aux auditeurs et aux auditrices.
Et très rapidement, pour finir, Alexandra Delbo, cet amour des sciences, d'où vous vient-il ?
Il me vient, moi je suis une scientifique en fait au départ, j'ai fait des études de sciences, je suis ce qu'on appelle biochimiste en fait, c'était mon métier d'avant, et je travaillais dans un labo de recherche, et puis ensuite je me suis rendu compte qu'en fait un seul sujet pendant plusieurs années, ça allait pas me suffire. Donc c'est finalement un peu cette curiosité dont je vous parlais à l'instant, c'est que moi j'ai besoin presque de m'abreuver en fait d'énormément d'informations scientifiques, et je suis toujours aussi émerveillée en fait chaque jour pour chaque sujet que je traite.
Merci Alexandra Delbo.
Et un grand merci à Benjamin Dargent, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Closer, et Maëlle Brun, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Public, d'avoir participé à cette fabrique de l'information, ce qui n'a pas été le cas de tous les titres que nous avons sollicités. Un grand merci à Jamil Jean-Marc Daclia pour ses éclairages, à Joséphine Reynard à la préparation, Serge Leroy, pardon, à la réalisation. Et oui, je en bafouille car nous sommes en retard. Vous allez retrouver dans un instant le book club de Marie Richeux.